exposition de terre et de cire au lieu d'art La Halle à Pont-en-Royans. Reportage lors d'un après-midi de chantier de terre crue avec de nombreuses participantes et participants sur le parvis de la médiathèque et dans les murs du lieu d'art pour une proposition à remodeler les lieux et inviter le public à saisir une ambiance et atmosphère propre aux inspirations artistiques et collectives de Tiphaine Calmette en collaboration avec Samuel Dugelet. Rencontre avec les artistes et des participantes au projet. Introduction par Giulia Turati, responsable du lieu d'art.
C'est un projet tout à fait inédit pour La Halle parce que si l'invitation à Tiphaine Calmette a été faite de manière assez classique, comme à chaque fois avec des artistes dont je découvre les travaux et que j'admire, que je suis, dont justement la démarche, la pratique résonne avec ce qu'on nous on peut proposer ici, et bien assez vite, l'exposition s'est transformée en une aventure collective. Donc Tiphaine et Samuel ont déjà collaboré par ailleurs, mais il y a eu cette décision de se détacher un peu du format classique de l'exposition. Il y a une artiste auteur qui propose quelque chose. Là, on est dans un flux des productions collectifs et participatifs qui mêlent à la fois effectivement la création contemporaine, mais aussi les pratiques artisanales et notamment de la terre crue avec Samuel. Donc il y a vraiment cette impulsion de ces deux experts, chacun dans son domaine, on va dire. Et puis, une vingtaine de participants qui ont répondu présents et s'y sont engagés avec une motivation que j'admire et qui fait chaud au cœur en fait de nous rejoindre sur 15 jours pour ces montages d'exposition qui prend la forme d'un chantier co-création, c'est-à-dire qu'on transmet, l'équipe Samuel Tiphaine et l'association de Samuel qui s'appelle de la matière à l'ouvrage, qui est spécialiste justement dans ces genres de propositions, des dispositifs. On transmet des techniques, des savoir-faire, une direction artistique et les participantes à leur tour, participantes en fait, parce qu'il y a surtout beaucoup de femmes. Et ça aussi applique les notions et les découvertes qui sont présentées à chaque jour autour d'une thématique. Et tout ça prend la forme d'une exposition qui, même une fois ouverte, sera habitée par les publics. Donc il y a vraiment quelque chose d'un process collectif et qui est donné pour que ce soit vivant collectivement ensuite. Et donc voilà, je laisse peut-être les directs intéressés à présenter leur collaboration désormais pluriannuelle.
Oui, on peut dire qu'il s'agit d'une hybridation des pratiques avec aussi cette matière dont Tiphaine Calmette, vous êtes spécialiste depuis de nombreuses années. Quelle est un petit peu l'idée de s'installer à La Halle et puis le côté expérimental que vous cultivez pour cette exposition, il semblerait ?
Je pense que les pratiques esthétiques, artistiques et les questions architecturales ont toujours coexisté et que la séparation en fait a été relativement tardive. Et je pense qu'il m'intéresse de remettre du lien et peut-être défaire un peu cette séparation que je trouve parfois trop arrêtée entre des objets esthétiques qui seraient là juste pour leur force esthétique et l'architecture qui serait là juste pour l'usage. Et renouer un peu entre ces deux forces qui pourtant nous ont entourés et qui fabriquent et qui sont les chefs-d'œuvre quand même architecturaux que nous avons à travers le monde d'ailleurs. Voilà, ça c'est un premier point. Ensuite, pour ma part, j'aime bien alterner entre des formats d'exposition plus classiques où effectivement je vais produire des objets dans mon atelier, plus ou moins seul, souvent quand même accompagné d'artisans ou d'artisanes, et ces formats et effectivement collectifs. C'est pas du tout les mêmes enjeux, c'est pas du tout les mêmes plaisirs, mais c'est des temporalités et des moments d'intensité qui permettent une variabilité et une approche différente dans les projets. Là, ce qui m'a intéressée à La Halle, c'est que c'est un espace d'exposition qui est à côté d'un lieu de vie, donc la médiathèque, qui draine des publics qui n'ont pas forcément l'habitude de venir dans des centres d'art. Et qui du coup est aussi un espace d'usage. Moi j'aime beaucoup que les objets artistiques aient un usage, qu'on puisse avoir une relation avec eux, qu'on puisse s'asseoir, y manger, partager quelque chose au sein de ces espaces. Et du coup, ma première envie, c'était voilà, d'accueillir aussi le public de la médiathèque pour pouvoir s'installer un moment dans des espèces de sculptures, fauteuils, pouvoir prendre un bouquin, s'y poser, boire une tisane, etc. Donc ça, c'était le premier axe. Effectivement, je travaille régulièrement avec la Terre Crue et avec Samuel qui m'accompagne dans la plupart de mes projets en Terre Crue. Et on fonctionne tout le temps sous la forme de chantiers participatifs. Pourquoi ? Parce que déjà la terre c'est un matériau qui est difficilement mécanisable et bon, peut-être Samuel vous expliquera pourquoi de toute manière il ne veut pas la mécaniser et qui demande du temps et pour lequel on a besoin de main d'œuvre et qui permet de faire des expositions vraiment avec des œuvres d'ampleur avec des matériaux complètement gratuits et récupérés. Donc là dans l'exposition on a principalement du tressage végétal avec des matériaux glanés autour de la halle. Donc on a du bambou qu'on est allé ramasser chez des voisins voisines, du saule, du noisetier, la clématite. Voilà, et la terre crue qui est issue d'un chantier à proximité et qui nous a été livrée et, gracieusement.
Par l'entreprise Tout un verre qu'on remercie chaleureusement et preuve aussi de la force fédératrice de ces projets à plusieurs endroits.
Et donc l'idée, c'est que ces participants et participantes, bah, ils ne soient pas là juste pour participer gratuitement à un projet, mais qu'il y ait quelque chose de plus large qui néo-réussisse, déjà des envies de partage, des envies de vivre ensemble, des envies de d'œuvrer ensemble à la production d'un objet commun, mais aussi bah, d'apprendre de nouvelles techniques, d'apprendre des uns des autres. Donc moi, de toute manière, à chaque chantier, j'apprends chaque fois, ça c'est clair. Et puis c'est des moments aussi, je dois dire, très joyeux. Je trouve important de mettre de la joie dans l'aspect de production qui des fois est difficile et stressant. Et que là, de le partager à plein, d'être dans cette dynamique d'énergie, ça rappelle aussi que voilà, tous ensemble, on est capable de faire des choses incroyables.
La joie se transmet dans le façonnage de la terre ?
Oui, je pense que la joie se transmet parce que, comme le dirait Samuel, c'est une technique assez facilement appropriable. Donc en fait, très vite, on se sent autonome dans le travail de la terre. Très vite, on est aussi capable de transmettre les techniques qu'on aurait apprises un jour ou même une heure plus tôt. Et donc après, il y a vraiment beaucoup de temps d'échange, en fait, où la main, où les pieds sont occupés, mais la tête est disponible pour parler avec les gens qui sont à notre droite, à notre gauche, avec qui on va mélanger la terre. Et du coup, ça génère du lien, et du coup, ça génère du rire. Et donc, ça génère quelque chose de très joyeux, oui, de manière générale. Et après, ce que je voudrais ajouter sur la question participative, c'est aussi une question que je me suis pas mal posée, c'est comment on déplace cette notion d'auteur ou d'autrice. Donc effectivement, je suis à l'origine de cette entreprise, à l'origine de cette invitation, mais l'idée, c'était de pas trop limiter, trop dessiner le projet global, que chaque objet n'est pas déjà un dessin ou une projection mentale que les personnes qui viennent m'aider à les faire doivent simplement réaliser, mais de se dire aussi comment ensemble, chacun avec son esthétique, son bagage culturel, son imaginaire, mais aussi la matière elle-même, comment en fait tout ça, ça guide à produire des formes qu'on n'aurait pas pu prévoir ni dessiner autrement.
C'est finalement la culture autour de la matière qui vous fait avancer dans vos pratiques et de la curiosité.
Oui, tout à fait. Tout à fait, et je pense qu'en fait, si on laisse de la place à la matière elle-même, elle a une force esthétique très puissante, Et en fait, elle va générer des formes si on l'écoute, en fait, si on y fait attention d'elle-même. Et après, à nous de savoir si on a envie de suivre ces formes ou de venir apposer plus des images mentales sur elle.
Mais les œuvres, l'aménagement, ça, vous l'avez conçu, vous dites, c'est un peu, comment dire, entre guillemets, work in progress, ou au fur et à mesure du temps que les choses se dessinent, mais vous avez quand même posé un certain nombre d'éléments dans l'aménagement ?
Alors effectivement, ça a été pensé complètement en collaboration avec Samuel, à qui je vais laisser la parole, et qui a structuré aussi le chantier avec des jours qui avaient des approches par technique.
Sur le pourquoi on travaille ensemble et qu'est-ce que ça génère et pourquoi on fait ça, en fait, le travail de la matière, il est c'est des techniques, c'est plein de techniques qui sont utilisées depuis longtemps, qui sont réappropriées, réaménagées en fonction de la matière qu'on a, de ce qu'on veut produire, etc. Ce qui est intéressant, enfin moi c'est pour ça que je fais ce travail-là et qu'on s'entend relativement bien avec Tiffaine, c'est que de la matière ouvrage, en fait, on l'a monté non pas pour ce qu'on va produire, qui est chouette, mais beaucoup sur tout le processus de production, qu'est-ce qui génère en fait. Donc moi je suis maçon, je fais des chantiers, je fais de plus en plus de chantiers sous ces formes-là, parce qu'en fait le fait d'être nombreux sur un chantier et que chacun apporte et fasse œuvre en commun, en fait ça redonne beaucoup de sens à ce que c'est qu'un chantier, quelle place on a là-dedans, dans des métiers qui sont très cloisonnés, des sociétés qui deviennent très individualistes, etc. Ça régénère vraiment de l'échange et on fait en sorte que tout le monde trouve un peu sa place là-dedans. Après, grosso modo, de la matière à ouvrage, on a plusieurs formes. On fait beaucoup de chantiers publics avec des vrais temps de formation, des vrais temps de chantier. On a d'autres dispositifs et on a les dispositifs artistiques. Enfin, artistiques, on bosse qu'avec Tiffaine, en fait, pour l'instant. Donc voilà, les dispositifs avec Tiffaine, on va dire. Mais où l'idée est, on cherche un petit peu comment cette émulation collective, se faire ensemble, permet à la fois un échange technique, un échange artistique, un échange de production commune. Comment on génère ça, en fait ? Là, ce qui se passe, c'est qu'en fait, effectivement, il y a plein de postes de travail, des postes qui apprennent à comprendre la matière, des postes qui mettent en place les œuvres. Mais l'idée, un peu comme le... Donc, c'est structuré, là, pour ce chantier proprement dit. En gros, on a structuré une première semaine qui est autour de la compréhension des matériaux. Donc, on est vraiment sur de la collecte de ce qu'on appelle des matériaux de cueillette, donc les végétaux dont on a parlé, la terre, qui est de la terre d'ici, etc. Et du coup, comment on arrive à comprendre cette matière en la manipulant pour petit à petit arriver à en tirer le maximum de propriétés et de ces propriétés, les utiliser pour faire œuvre ensemble. Et la deuxième semaine, on l'a structurée sur une autre thématique, et plus une thématique qui est assez à la mode en ce moment, mais que j'aime bien, qui est la thématique du confort et des ambiances. C'est comment on peut transformer les ambiances, les ressentis des espaces grâce à ce matériau-là. Donc il y a un truc, moi j'ai des formations pour les archis, machin, qui sont très calées, tout ça, très cher. Et là, on est sur comment on investit aussi ces champs où il y a un vrai besoin de compétences théoriques, mais en même temps de se laisser un peu guider là-dedans. Et ça nous structure des journées où on va avoir un temps avec une personne spécialisée, par exemple de l'acoustique ou de la thermique, ou là quelqu'un qui vient sur les odeurs. On a des... qui va présenter un peu où on en est aujourd'hui de nos compétences là-dedans, nos connaissances, et après, du coup, on expérimente ça ensemble. On apprivoise ces notions-là en faisant œuvre commune. Voilà, c'est un peu ça qu'on a voulu générer, qui se passe assez bien. Donc là, c'est la semaine matière. Puis, il y a une appropriation de la matière qui commence à être assez bien. On est jeudi, je suis assez content, c'est bien, ça fonctionne bien. On verra la semaine prochaine, je ne suis pas très inquiet. Pas d'un naturel très inquiet de toute façon. Mais voilà, ça fonctionne bien, c'est un peu ça qu'on cherche.
Il y a tout un public qui est demandeur dans ce type, c'est impressionnant quand même, rassembler 20 personnes.
Même un peu plus, parce qu'il y a un turnover de quelques personnes qui nous quittent cette semaine et d'autres qui arrivent la semaine prochaine. Donc c'était vraiment pour nous, c'était la première fois. Donc on a dit, bon allez, on s'élance. C'est passionnant en fait. On commence à réfléchir à tellement de choses sur les faire ensemble, les penser ensemble, les vivre ensemble. Hein. Et il y a un rythme, même pour nous, équipe, donc, qui est là tout le temps, qui connaît par cœur ses lieux et son fonctionnement. Il y a un rythme vraiment d'exception et d'exception collective. Donc c'est vraiment, j'espère qu'on arrive à les transmettre. Pas par cette description, c'est vraiment quelque chose. C'est un défi, c'est une aventure. C'est incroyable en fait.
Tiffaine.
Je rebondis puisque Julia parle d'exception et vous demandiez un peu pourquoi en fait il y a autant de gens qui ont envie de participer à ça, bah justement parce qu'on vivre ensemble et faire ensemble, c'est devenu une exception. Et ça ne l'était pas forcément avant. Et il y a une réelle demande en fait de partage, de lien, d'apprendre ensemble, d'arrêter qu'on soit tous seuls en fait dans notre process de recherche, de vie, d'apprentissage, et de sortir un peu aussi de cette dimension de c'est bien fait, c'est mal fait, j'ai eu raison, j'ai pas eu raison. Et que là, en fait, tout est tellement plus organique et tellement plus horizontal que je pense que ça fait du bien dans la société aussi actuelle.
La matière elle-même est organique déjà. Hein. C'est, on peut dire, un supplément d'âme en plus. On peut rappeler juste la terre crue. On n'a pas évoqué ce que peut représenter la terre crue. C'est peut-être pas évident à toutes les oreilles, la notion de terre crue. Comment elle se constitue?
C'est extrêmement simple.
C'est assez marrant, oui. Parce qu'en fait, ça devient un truc qui est hyper compliqué, qu'il y a des gens qui intellectualisent beaucoup pour essayer de rendre sérieux ce truc où, en fait, c'est de la bouillasse, en fait. C'est le truc qu'on a par terre, on met de l'eau dedans, ça patauge, et en fait, on construit avec ça. Mais ça fait des milliers d'années qu'on fait ça. Ça s'est un peu arrêté après la Seconde Guerre mondiale avec la reconstruction, l'essor du béton, etc. Ça a été repris avec des choses qu'on tentait d'essayer de le rendre très sérieux, parce que c'est un peu un matériau de pauvre, c'est un peu crassou, tout ça. Et en même temps, ça génère plein de choses. On a un lien avec la terre qui est assez rigolo. C'est-à-dire quand on commence, on a eu la question, je ne sais plus, hier, parce qu'en fait, lundi, on a fait que du végétal. Et c'est très chouette, ça donne une ambiance. Mardi, on a commencé à patouiller la terre. En fait, ça génère une ambiance complètement différente. Et c'est marrant, cette espèce de truc qu'on a avec ce matériau qu'on touche quand on est gamin, qui n'est pas très sérieux, qui est un peu dispo, qui est gratuit, qui est... On ne sait pas. Et en fait, on est tous quand même vachement familiarisés avec ça. Et je trouve ça intéressant, justement, ce que ça génère d'échanges. Parce qu'en fait, on est tous crado, là. Et ça ne fait pas sérieux. En même temps, ça fait envie à tout le monde. Et en fait, on fait des... Parce que moi, je fais aussi des vrais bâtiments publics, des écoles et des machins. Ça marche très, très bien. Ça revient au goût du jour, avec un espèce de complexe de beaucoup de gens qui font de la terre, qui ont envie d'y mettre un côté un peu propre, un peu... voilà, quand on n'est pas... C'est bon. On est sortis de cette bouillasse, on est des gens sérieux du bâtiment. Alors qu'en fait, je suis pas sûr que ça soit hyper nécessaire, parce qu'en fait, c'est pas... Voilà, il faut l'assumer, cet affect qu'on a avec ce matériau-là, qui permet plein de choses, et qui permet plein de choses humainement très fortes. Et c'est pour ça que les gens, ils viennent un peu curieux, ils se demandent ce qui va se passer, et en fait, petit à petit, il y a un truc qui se passe, et ils sont tristes quand ils partent après. Parce que ça se sépare, ça s'arrête, et voilà.
Ah oui. Bah, disons que mes projets, ils évoluent aussi au fil de ma connaissance déjà d'un de la matière et de ma pratique des chantiers collectifs. Je pense qu'au départ, j'avais envie de produire des formes et que donc j'avais tendance à dessiner des formes très précises qu'il fallait réaliser. Je pense qu'aussi, avec mon expérience... En tant qu'artiste, j'apprends à faire non seulement confiance à la matière, mais aussi confiance au collectif. Et à dire qu'il y a des choses très belles, en fait, des formes qui émergent sans avoir besoin de les dessiner. Julia a parlé d'une expérience humaine, et on en a déjà un peu parlé, mais c'est vrai que c'est aussi... c'est pas juste les journées en collectivité, c'est-à-dire que là, on est en gîte, il y a les repas, c'est un mode de vie aussi. C'est pas juste travailler ensemble. Et je pense que c'est ça aussi qui manque aujourd'hui, ce mode de vie commun, ces grandes tablées où on est 20 autour de la table. Tout ça, ça génère aussi beaucoup de joie, en fait, et de partage. Ça déborde, en fait, de la journée classique de travailleurs salariés, quoi.
Donc, belle dynamique collective. Il y a une chose qu'on n'a pas abordée, c'est de cire, puisque dans l'intitulé de terre et de cire, il y a aussi cette matière-là?
Oui, tout à fait. C'est vrai que la cire, c'est une matière que je travaille de manière un peu plus récente. C'est aussi une matière que je récupère. Celle-ci, elle n'est pas gratuite. Je l'achète à des apiculteurs. Je la trouve très intéressante sous plein de points. Déjà, elle a aussi cette capacité de réversibilité, comme la terre crue. C'est-à-dire que la terre, une fois qu'elle est mise en œuvre, vu qu'on n'ajoute rien dedans, on peut la remouiller et elle peut revenir à son état premier. Et ben la cire, on peut la réchauffer un petit peu éternellement et elle refond et en fait elle se remodèle à l'infini. Et j'aime bien en fait la capacité de ces matériaux à à revenir à zéro à chaque fois, à ne pas laisser de déchets derrière eux, à se dire qu'on érige, on détruit, on peut reprendre la même matière et repartir à autre chose. Et je trouve ça assez, assez beau aussi d'être, de ne pas être obligé de tout le temps laisser des choses derrière soi. Donc là, il y aura un travail plutôt de luminaire, parce que c'est vrai que la cire, elle a une transparence qui est intéressante. Elle va générer des espèces de motifs dans sa matière même. Et après, elle a une dimension olfactive aussi, qui habite l'espace. Et en termes d'ambiance, bah, ça modifie aussi beaucoup la perception de l'espace. C'est une odeur assez sucrée, doucereuse, réconfortante, qui va aussi habiter l'espace d'une autre manière.
Côté sensoriel, la terre a une odeur aussi. On va poser la question aux spécialistes, la terre crue. Est-ce qu'il y a une odeur caractéristique de la terre crue ?
Il y a une odeur de la terre qui est assez connue, qui est l'odeur de... Quand, après la pluie, l'odeur de champignons, un peu de terreau, machin, etc. Qui est vraiment la partie végétale de la terre, qui, elle, a beaucoup d'odeurs, mais qu'on n'utilise pas dans le bâtiment. C'est celle qu'on utilise pour l'agriculture, pour se nourrir. Nous, on n'utilise pas celle-ci, on utilise celle qui est minérale, qui est en dessous, qui, elle, a une odeur qui est très fine. Hein, ça sent pas beaucoup plus fort que le sable, quoi. Donc c'est pas des odeurs, on va pas dire qu'il y a une odeur très forte. Le végétal va apporter beaucoup, beaucoup plus. C'est le vivant qui apporte beaucoup d'odeurs, en fait, plus que ce côté minéral de la terre. Voilà. Construire avec de la terre, c'est un matériau qui est gratuit, qui est disponible. C'est des savoir-faire qui sont pas très compliqués, mais qu'on a d'une perdu et du mal à reprendre. Parce qu'en fait, il y a une approche du bâtiment aujourd'hui qui est sur des bases de recettes, de « je vais mettre tant de ça, hop, ça va marcher, comme ci, comme ça ». Là, on a une matière, en fait, qui est gratuite, mais c'est jamais deux fois la même. Donc ça demande à la fois un savoir-faire assez fort pour savoir l'utiliser parce qu'elle est tout le temps changeante. Et en même temps, ce savoir-faire, en fait, si on prend confiance et si on essaye et qu'on se laisse guider un peu par la matière, c'est un savoir-faire qui n'est pas si compliqué. Et du coup, transmettre. Donc là, c'est sûr, on a deux terres, c'est moi qui suis allé les choisir, etc. Donc il y a une base que j'ai apportée. Mais après, très vite, les personnes qui sont là, elles ont pris le savoir-faire pour arriver à manipuler ces deux terres qu'on a sous la main. C'est sûr que demain, elles en prennent une nouvelle. Ça va être un peu compliqué, un peu perdu. J'essaie de transmettre des outils pour être capable de se faire confiance et essayer une nouvelle terre et petit à petit se l'approprier. Parce que je pense profondément qu'on le complexifie, parce qu'on complexifie beaucoup de choses, notamment ceux qui sont sachants, pour préserver un petit peu un espèce d'aura, un espèce de métier, etc. Il y a des compétences qu'il y a besoin, en même temps il y a une capacité de se les approprier qui est importante. Et c'est ce qui se passe ici. En fait, effectivement, moi là je fais de la logistique, des fois j'ai des questions, donc je rassure, je réexplique un peu comment ça marche, sur des petits détails, etc. Mais globalement, il y a une grosse partie des compétences, elles sont acquises. Ça fait 3 jours qu'ils sont dans la terre, ça suffit pour faire ce qu'on fait actuellement. Voilà, il y a vraiment... il y a ce double truc où c'est pas simple, pas parce que c'est compliqué, c'est pas simple parce qu'on a oublié de s'adapter à une matière qu'on a. Mais c'est vrai dans le bâtiment, c'est vrai dans plein de choses, en fait. Se faire confiance, c'est comprendre ce qu'on manipule, en tirer ses propriétés et faire avec. En fait, c'est des mécaniques qu'on n'a plus et qui sont pas si compliquées si on les réveille, en fait. Voilà, du coup, ça se transmet facilement.
Et ça se réveille d'autant plus avec, quand on parle de transition écologique, enfin, justement, par rapport à l'isolation, la terre crue peut jouer aussi son rôle par les temps qui courent. J'imagine que vous êtes un fervent militant, ça.
C'est pas parce qu'il y a de la terre que ça marche à tous les coups, c'est un peu plus compliqué que ça. On est capable de générer des ambiances qui sont hyper agréables, parce qu'on va avoir des régulations hydrothermiques, des machins. Il y a beaucoup de choses qu'on explique de façon très simple. Aujourd'hui, on va isoler les bâtiments par l'extérieur, on fait une enveloppe assez isolée, légère. Si on met pas de masse à l'intérieur, ça marche pas très bien. Du coup, on va mettre de la masse, c'est-à-dire de la terre qui marche très très bien pour avoir une régulation et avoir une atmosphère à l'intérieur qui est relativement constante. Donc la terre marche bien pour ça, et marche bien même plus que ce qu'on arrive à chiffrer actuellement. On chiffre des choses, donc c'est très bien qu'on met des murs en terre dans un bâtiment, il va devenir assez agréable à vivre. Et il y a beaucoup de choses actuellement qu'on essaie de creuser pour se dire, en fait, ça... En fait, si vous demandez à quelqu'un, sauf si sa maison a été mal transformée parce qu'il y a eu des enduissements, des choses qui font qu'elle génère de l'inconfort, parce qu'elle a été isolée, plus un placo, plus un ciment, un machin, et du coup, on génère de l'humidité, des pathologies, et on la rend inagréable. Sinon, la plupart des gens vont vous dire, on est bien dans une construction en terre. Et en fait, il y a beaucoup de choses qui jouent dans ce bien. Donc effectivement, on sait chiffrer la régulation hygrothermique, ce qui fait qu'on a des maisons qui sont agréables parce qu'on a une température et une hygrométrie constante qui sont proches de notre confort. Donc ça fonctionne bien. On se rend compte sur la qualité de l'air, ça joue. On se rend compte sur les odeurs, ça joue. On se rend compte en fait qu'il y a plein de choses qui se passent, qu'on essaye petit à petit. Là, on a plein de projets de recherche. Et ça explose en ce moment, parce qu'on est hyper à la mode. Qui essaye de quantifier un peu ça, d'essayer de comprendre pourquoi en fait ça marche quand même assez bien. On va voir très bien. C'est pas un matériau isolant, c'est d'autres fonctionnements qui vont à l'encontre de ce qu'on fait actuellement, mais qui fonctionnent assez bien.
Bon, en tout cas, certaines apprenantes ont l'air de particulièrement apprécier ça. Ça rejoint aussi votre fer de lance autour de la culture, la transmission. On n'a pas parlé de transmission, mais le savoir-faire, la terre, c'est aussi ça. Tiffaine.
Bah, moi j'aime bien considérer chaque exposition comme une opportunité en fait d'essayer des nouvelles choses et se dire que les tentatives, l'exploration et l'expérimentation, ça se cantonne pas que à l'espace de l'atelier. Moi j'ai pas un atelier qui fait 150 mètres carrés, j'ai pas 20 personnes qui bossent avec moi, j'ai pas tout le temps en fait ces conditions-là de travail. Et du coup, bah, là, c'est pour moi vraiment des opportunités de se dire, bon, bah, allez, on a un espace, on essaye de recouvrir tous les murs de terre, qu'est-ce que ça génère comme espace. J'ai pas l'occasion tous les jours de faire ces expérimentations-là. Donc, je trouve que c'est vraiment chouette aussi d'avoir l'occasion, en fait, de pouvoir faire ça et de le faire collectivement, parce que c'est aussi une excuse pour essayer des trucs, expérimenter ensemble et rechercher. Et se dire que la recherche, en fait, elle peut être tout le temps. Et que pour moi, la recherche de l'objet fini, elle n'a pas forcément de sens. Et ce qui m'intéresse, et je pense que ce qui est important dans ces moments-là, c'est que c'est le processus qui compte.
Avec toutes les vibrations de la halle, n'est-ce pas, Julia ?
Oui, c'est ça. Et puis, je pense aussi, ce qui va être intéressant, c'est les moments, les formes, l'ambiance, on l'a dit, sera extrêmement sensorielle. C'est-à-dire, le public est invité à s'y installer. Là aussi, en relation très horizontale, de l'enfant qui vient pour la première fois dans un centre d'art jusqu'au senior qui connaît depuis 40 ans notre programmation. Donc, il y a vraiment quelque chose, je pense, qui sera très spontané là-dedans dans la proposition finale, des formes qui peuvent faire voyager en quelque sorte, faire déclencher vraiment un imaginaire assez personnel et universel à la fois. Et donc je pense que dès par cette entrée très sensorielle, on pourra aussi transmettre par la parole des gens, nous de la halle qui sont restés là, ce qui a été ces processus de fabrication. Il y a les gestes, la main qui malgré tout sera présente dans les façonnages de ces pièces, et donc on remontera aussi les étapes, même au mois de décembre, même le dernier jour, pour voir qu'est-ce qui a été ces deux semaines de production collective.
Ce que je pourrais ajouter, c'est que pour moi, ces objets aussi, qui sont du coup les restes, les reliquats de ce chantier, sont aussi des outils de médiation pour parler d'autre chose que l'art lui-même, en fait. Mais du coup, ils portent en eux des semaines d'expérience. Ils permettent aussi de parler d'un matériau qui est trop peu connu du grand public, de techniques aussi qui sont un peu oubliées, un rapport à la matière, et de pouvoir le montrer dans un centre d'art, ça permet en fait de pouvoir un peu en parler au plus grand nombre.
Bien, reste à découvrir hein, pour le public cette halle complètement transformée par cette terre, ce végétal. Et puis, bien sûr, tout ce qui concerne le côté, ce qu'il faut savoir, côté pratique, Julia, et puis les participantes.
Non, je voulais juste remercier vraiment Agathe, Amandine, Anne, Bénédicte, Brigitte, Cathy, Clélia, Chloé, Christophe, Elsa, Francine, Jules, Gwen, Jules, Juliette, Laurence, Léa, Maëva, Marie F et Marie C, on en a deux, Marou, Roxane, Zoé, d'avoir vraiment répondu à cet appel à participation. L'idée, c'était vraiment de proposer quelque chose et que les gens viennent à nous, sorte. Et elles étaient super nombreuses et nombreux. Et puis, évidemment, toute l'équipe de l'association La Matière à l'Ouvrage, parce que Samuel n'est pas seul ces jours-ci. Damien, Sophie, Jules, Régis, la semaine prochaine.
Merci beaucoup Julia Toratti, merci beaucoup Tiffaine Calmette et Samuel Desjulets. Je peux vous interrompre deux secondes, là vous êtes en plein chantier, je vois que ça malaxe la terre avec les pieds, les mains, il y a de la paille, vous êtes bien entouré. Qu'est-ce que vous faites précisément actuellement? Vous êtes sur le parvis de la Halle, hein. Vous êtes au soleil, c'est plutôt agréable, non? Comme ambiance?
Oui, oui, c'est très bien, c'est très chouette. Et en fait, là, on est en train de fabriquer du torchis, donc avec beaucoup de paille et de la terre bien humide. Mmh. Et voilà, pour la sculpture après.
Alors, le torchis, ce que vous dites, torchis, c'est finalement c'est la terre crue, c'est pareil ou...
Alors, le torchis, c'est plutôt pour monter à la verticale.
Oui.
Donc, comme il y a la paille qui structure en fait la terre. Donc c'est plus facile à monter. Et puis il y a aussi une structure, en fait le torchis se monte également sur une ossature bois. Oui. Voilà. Donc qu'on a réalisé tous ensemble début de semaine, oui. Mais plutôt en vannerie. Voilà.
Alors qu'est-ce qui vous a intéressé de venir sur ce chantier?
Oui, alors moi l'intérêt c'était, j'avais envie de faire l'expérience en fait de réaliser des œuvres dans un centre d'art et avec une équipe, avec un travail collectif. C'est toute cette dimension-là qui m'intéresse. Et puis aussi je ne connaissais pas les chantiers école formation. Donc j'avais envie de connaître aussi ce mélange de pratique et de théorie. Voilà, donc c'est vraiment intéressant tout ce mélange, tous ces contextes en fait qui se croisent. Et, pour créer après une exposition et dans un centre d'art. Je trouve que c'est intéressant. Ouais.
Alors là, il y a plusieurs postes de travail. Là, donc c'est la matière ensuite qui file en dessous. Pour donc vous tournez un petit peu sur les postes ou vous êtes...
Oui, c'est vraiment ça aussi, c'est très fluide au niveau de l'équipe. L'idée c'est de déjà d'aller vers ce qu'on a envie et de toucher à toutes les étapes en fait de réalisation. Donc ce matin par exemple il y avait du tissage de fibres qu'on a collectées au début de semaine. Et après il y avait aussi le torchis ensuite. Et il y a aussi la construction de bauges. Donc, donc c'est bien de toucher à toutes ces techniques, de bien les saisir, de comprendre comment ça fonctionne. Et puis aussi, ce qu'on apprend, c'est les textures de la matière terre selon ce qu'on a envie de réaliser. Donc il y a toute cette sensibilité qu'on nous apprend et qui est riche en fait. Et du coup, on apprend plein de choses.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Moi, je pense que je viens d'un autre canal que les autres personnes, parce que je ne suis pas artiste et la plupart des gens sont artistes ici. C'est une amie qui travaille à la médiathèque du coup de Saint-Marcellin qui m'a fait passer le mot parce qu'elle sait que j'aime bien je fais de la vannerie sauvage et puis je suis aussi maçonne, donc voilà. Je fais de la terre crue, mais j'avais jamais fait de bauge, puisqu'en plus c'est une technique de construction qui vient pas d'ici. Et de torchis, j'en avais jamais fait non plus, puisque ça vient pas non plus d'ici. Donc voilà, c'était l'occasion d'expérimenter d'autres choses et d'être dans un autre environnement.
Et ça enrichit véritablement votre pratique, justement?
Tout à fait, ça enrichit ma pratique et puis les intervenants sont de qualité. Donc voilà, et aussi d'allier l'artisanat et l'art, c'était aussi quelque chose que... je ne connaissais pas vraiment, enfin que j'avais jamais pratiqué en tout cas.
Merci beaucoup. Ben là, on était justement à l'étage à l'instant. On a vu la terre repartir dans les entrailles de la halle.
Là, en fait, on est surtout en train d'essayer de faire une pièce qui change complètement d'ambiance par rapport à la première qu'on traverse, avec les quatre murs qui seront recouverts, même jusqu'au plafond, si tout se passe bien. Et du coup, de créer un autre...
Une autre ambiance,
oui. Ouais. Et là, c'est vraiment, pas la problématique, mais c'est monter la terre, essayer de comprendre comment ça fonctionne en termes de masse aussi et de poids, comment on fait supporter la terre sur cette structure qui se compose de bambous et de végétaux qu'on a récoltés.
Parce que là, vous avez fait un immense treillis hein, qui recouvre complètement cette deuxième salle. Et là, vous allez mettre donc de la terre de partout.
Ah oui, si tout se passe bien, je crois que c'est le projet, ouais, c'est de monter jusqu'au-dessus.
Il y a aussi donc des notions de compétences pour façonner un mur.
Et ben là, du coup, c'est l'intervention de Samuel et Damien qui nous ont appris assez rapidement, finalement, mais les techniques de base pour travailler la terre, pour la transformer soit en torchis, soit en bauge. Et en fait, oui, c'est des petites formations qu'on a un peu là depuis le début de la semaine, quoi.
Quand vous dites embauche, vous pouvez rappeler de quoi il s'agit ?
Eh bien, le torchis, ça va être beaucoup plus liquide et on va avoir beaucoup plus de fibres. Il faut que ce soit dense pour que ce soit solide. La bauge, là, ça, on va plutôt partir sur une terre qui est plus plastique.
Mais déjà, ça commence à se sentir, puisque c'est une salle qui, quand elle est vide, est particulièrement résonante. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'écouter ce que ça donne. C'est presque un peu trop résonant, même. Et là, on sent déjà que ça commence à devenir mat. On peut même parler sans trop complications.
Ah bah oui, oui, c'est ce qu'on s'est rendu compte de ça tout à l'heure, mais là c'est vraiment tout le jeu de la couche de végétaux et puis de paille derrière qui commence à rendre la salle phonétiquement agréable.
Alors quand vous dites végétaux, il s'agit de plusieurs types de végétaux, hein.
Oui, oui. Bah, on a le bambou qui a servi à faire la structure surtout, et après ça a été le noisetier et d'autres plantes dont j'ai plus forcément les noms.
Plantes que vous avez trouvées sur place ?
Oui, c'est ça. Ben, y a plusieurs groupes qui sont allés faire des glanages autour d'ici et qui ont récupéré de manière... je sais pas les mots.
Oui, voilà. Sur leur chemin, ils ont...
Oui. De manière raisonnée, quoi. Oui. Récolte raisonnée. Ah,
oui. C'est agréable de travailler la terre.
Oui, c'est très agréable. Je conseille à tout le monde de travailler un peu la terre, tous les jours.
Oui. Est-ce que ça apaise ? De travailler la terre.
C'est très apaisant. Ça suit un peu la continuité du mouvement. C'est très organique. C'est frais et ça évolue dans le temps aussi de manière assez naturelle. Au niveau du séchage, ça demande une attention particulière.
Et ça, c'est quelque chose que vous connaissiez avant ou c'est une découverte ?
Oui, un petit peu. Parce que je fais de la céramique, donc je retrouve beaucoup de liens avec l'éco-construction. C'est comme si je changeais un petit peu d'échelle. Enfin, pour l'instant, c'est un peu mes premières impressions. J'ai juste l'impression de faire une poterie géante.
Avec une matière qui change quelque peu, quand même ?
Oui, complètement. Après, je peux complètement aussi relier l'idée de la fibre dans le torchis à une terre que je travaillerai en céramique qui a un petit peu de grain, par exemple. Plus elle est chargée, et pas que juste argileuse, et plus on va pouvoir monter en fait au niveau du façonnage. Voilà. Et plus la terre est fine, plus on va aussi dans le détail. Donc ce qui se rapprochera plus du travail des enduits, par exemple, par la suite.
L'exposition, elle est visible jusqu'au 20 décembre, jusqu'aux fêtes des fins d'année. C'est vraiment une invitation aussi à prendre du temps.
Oui.
Voilà, je l'espère que ce sera une petite bulle dans la journée des nos visiteuses et visiteurs.